Jusqu'à 22h, Asian Bubble. Entrez dans la bulle de Loli et découvrez toute la culture asiatique sur Neptune FM.
Chaos, bonsoir, bienvenue sur Neptune FM pour cette nouvelle émission d'Asian Bubble. Cette semaine, je vais vous parler de l'artiste Bando Taro. On aura ensuite des petites présentations et chroniques des éditions Veritoon. Donc on aura la présentation du manhwa Solo Leveling, la chronique du manhwa, le volume 2 de Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim. On aura également la chronique du volume 2 de Hellbound, l'enfer. On aura ensuite un petit point sur les sorties manga de la semaine. On continuera à parler culture avec les secrets du saké. On aura une petite actualité au Japon avec le parc Ghibli qui révèle ses tarifs. Et on finira l'émission avec une news musicale concernant AKB 48 qui sera de retour avec son 59e single Motokare Death en mai, donc ce mois-ci, d'ici quelques jours. On commence donc avec la première chanson de l'émission, c'est Honto to Tokoro de Tokyo Jien, et on reviendra juste après pour la présentation de l'artiste Bando Taro. Tanuki ga shindara, Tanuki ga shindara, Karasu ga shindara, Karasu ga shindara. We'll be right back. Donc c'était Tokyo GN avec la chanson Honto to Tokoro. On passe maintenant à la présentation de l'artiste Bando Taro. Donc c'est un arrangeur musical et compositeur japonais de musique de jeux vidéo qui est actuellement en pause et qui a fait ses débuts en 1992. Il appartient au groupe Nintendo Sound Team en tant que compositeur. Donc je viens de le dire, Taro Bando débute en 1992 en collaboration avec sa collègue Soyo Oka en interprétant les pistes 40 à 45 sur un album promo de Super Famicom Magazine publié chez Tokuma Shoten Publishing. En 1993, Taro Bando participe avec Koji Kondo, Hirokazu Tanaka, Ryoji Yoshitomi, Soyo Oka ainsi que Kazumi Totoka sur un album rap remixé des thèmes de Mario Bros sous les labels donc Living Beat Records et Alpha Records. Une performance de Simon Harris alias Ambassadors of Funk en featuring avec MC Mario. En 1998, il reprend son activité chez Pony Canyon en travaillant avec Hajime Wakai, le compositeur des Pikmin sur GameCube et de Star Fox 64, sur la bande-son de F-Zero X. Un an plus tard, il arrange F-Zero X sur un CD de 10 pistes à la guitare électrique chez Players Planet Media Factory. Taro collabore avec Ryuichi Katsumata sur cette version à la guitare électrique. En 2000, un an après la sortie de Super Smash Bros. Sur Nintendo 64, sort Nintendo All-Star Big Fight Smash Bros. Original Soundtrack. Taro Bando fait partie du staff sur la composition de la bande sonore de Super Smash Bros. Puis en 2004, il compose Rainbow Road, Rendez-vous of Ghost, Japon et Car Select sur une Sound Collection de Nintendo intitulée Volume 2 Koopa Loud Music qui a été enregistrée chez Citron Digital Contents. Fin avril, en collaboration avec le génie Koji Kondo, ils composent ensemble sur le GameSound Museum Famicom Edition 14 Shin Onigashima Part 1 plus GameSound Museum Famicom Edition 15 Shin Onigashima Part 2 toujours chez la maison de disques Citron Digital Contents. Donc côté discographie, Bando Taro a participé à 10 OST. Donc on a notamment l'OST de Super Mario Kart en 92, Super Mario Compact Disco en 93, Mall Mania en 96, F-Zero X en 98, Nintendo All-Star Dairanto Smash Bros. En 2000, Super Smash Bros. Melee en 2001 et Nintendo Sound Collection Volume 2 Loud Music Koopa en 2004. Il a également participé à 7 doujin, le premier qui est sorti, donc c'est Beware the Invasion qui est sorti le 22 janvier 2010 et le dernier c'est F-Zero Boss Power qui est sorti le 13 janvier 2018. On va pouvoir s'écouter tout de suite deux musiques donc qui ont été composées par Bando Taro. On commence avec Endless Challenge, une musique extraite de l'OST du jeu F-Zero X, et on viendra juste après pour parler du manhwa Solo Leveling. We'll be right back.
Asian Bubble. Découvrez toute la culture asiatique sur Neptune FM.
C'était la musique The First Chapter Inside the House, une musique extraite du jeu Shin Onigashima et qui a été composée par Bando Taro. On passe maintenant à la présentation du manhwa Solo Leveling du titre original Na Onjaman Level Up. Donc c'est un manhwa de genre action fantasy qui a été écrit par N'Gun, dessiné par Jang Songkrak à partir de l'œuvre originale de Chugong, traduit par Sabrina Damoun et prépublié dans le Kakao. La version sud-coréenne est parue en 2018 aux éditions DNC Media et Kakao, avec un total de 179 chapitres qui terminent la série. Et la version française est parue le 7 avril 2021 aux éditions Veritoon dans leur collection K-Books, avec également 179 chapitres publiés et 5 tomes reliés. La publication des volumes est toujours en cours. Vous pourrez retrouver Solo Leveling dans le commerce au prix de 14,95€. L'âge conseillé pour le lire est de 14 ans et plus. La série est pour public averti à cause de la violence et il existe un light novel qui est à l'origine de cette adaptation, donc qui est terminé en 14 tomes et qui est paru uniquement pour le moment en Corée du Sud. Titre inaugural de la collection K-Books, le label de la plateforme numérique Veritoon, Solo Leveling est la série phare du webtoon coréen, devenu un phénomène viral. Suivez Jinwoo, chasseur doté d'une interface virtuelle qui lui permet de passer des niveaux pour devenir plus fort. Donc le résumé de cette série, d'étranges portails sont apparus aux quatre coins du monde, laissant pénétrer d'abominables monstres. Pour résister à l'envahisseur, l'humanité a constitué une armée de chasseurs intrépides qui passent les portails pour attaquer l'ennemi au cœur de ces donjons. Des combats sans merci s'y déroulent avec à la clé de fabuleux trésors. Jinwoo est le plus faible des chasseurs. Alors qu'il participe à un raid, il s'effondre et il est laissé pour mort. Mais à son réveil à l'hôpital, il ne se sent plus le même et découvre grâce à une interface virtuelle qu'il devient progressivement de plus en plus fort. Voilà, donc je rappelle que Solo Leveling est à retrouver avec pour le moment 5 tomes reliés aux éditions Veritoon. On va s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Majestic Rose de Tomatsu Haruka Et on reviendra juste après pour la chronique du volume 2 de Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim. C'était Tomatsu Haruka avec la chanson Majestic Rose. On passe maintenant à la chronique du volume 2 de Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim. Donc je rappelle que c'est un manhwa de genre comédie, romance, tranche de vie qui a été écrit par Jung Yong-yoon, dessiné par Kim Yong-mi, traduit par Kete Amoroso et prépublié dans le Kakao. La version française est parue aux éditions Veritoon dans leur collection K-Books avec pour le moment 4 tomes. Ce volume 2 est paru le 8 septembre 2021 au prix de 14,95€. Donc le résumé de ce tome, la secrétaire Kim Miso a tout pour plaire. Elle séduit comme elle respire. Son patron Lee Yong-jun s'est juré de conquérir la belle à n'importe quel prix. Hélas, la demoiselle n'est plus un cœur à prendre. Un autre prince charmant occupe toutes ses pensées. Mais qui est donc le mystérieux sauveur qui fascine tant notre héroïne? Donc Lee Yong-jun est bien décidé à garder Miso auprès de lui comme secrétaire. Mais cette dernière est ferme, elle veut démissionner afin de se concentrer davantage sur sa vie personnelle. Le vice-président met alors en place un plan méticuleux en cherchant à faire évoluer leur relation vers la comédie romantique, ce qui permettrait potentiellement à Kim Mi-so de changer d'avis. Le vice-président met alors les petits plats dans les grands et privatise un parc d'attractions rien que pour eux, après un dîner aux chandelles. Alors que son plan avance, Kim pense de plus en plus à son supérieur, tandis que ce dernier est confronté à ses propres dilemmes familiaux. Donc après un premier volume séduisant par moult aspects, Secrétaire Kim est maintenant un récit bien planté et prêt à nous capter par ses développements. Ça ne manque pas puisque dès les premières pages, le vice-président Yongjun déroule ses manigances en rendant sa relation avec sa secrétaire plus intime. L'histoire devient alors plus douce, aussi le lecteur est vite tiraillé par un questionnement. Le supérieur de Kim fait-il preuve de faux-semblants ou l'attachement mutuel qui nous est montré est-il vraiment sincère ? Voilà l'une des questions qui marque ce second tome, avec quelques éléments de réponse distillés ci et là, surtout en ce qui concerne la jeune femme. Voilà un programme qui marque une suite toujours rythmée dans son découpage et qui ne s'éloigne pas de la bonne ambiance dépeinte dans l'opus précédent. Le webtoon de Kim Young-mi reste une lecture drôle et rafraîchissante grâce à l'opposition caractérielle permanente entre ses deux protagonistes. Quelques ficelles sont évidentes, bien sûr, mais cette écriture simple en apparence s'avère efficace dans le développement de l'alchimie entre Kim et son supérieur. Un semblant de romance plane sans pour autant que le récit soit précipité. On apprécie alors leur relation sur le moment présent, notamment quand chacun se livre un peu plus à l'autre, donnant parfois un poil de douceur aux échanges. Et comme pour l'opus précédent, ce deuxième volume s'est allé plus loin que cette comédie sentimentale initiale, en allant gratter dans les tourments des deux têtes d'affiche. C'est davantage la situation familiale de Yongjun, complexe et tendue, qui marque les drames de ce tome. Une affaire assez classique de jalousie, mais qui amène une sorte de profondeur dans ce petit cadre, ce qui pourrait à terme donner de la consistance à l'implacable vice-président. Kim n'est pas en reste puisque ses tourments se précisent, prenant éventuellement à contre-pied quelques pistes de réflexion qu'on pouvait avoir dans le premier tome. Là aussi, la connexion entre les personnages semble pour l'heure évidente, mais c'est avant tout son effet sur les développements relationnels et les évolutions des personnages que l'idée pourrait se montrer habile au terme de l'histoire. Il en résulte alors un deuxième tome qui suit fidèlement la direction et le ton du premier, et constitue alors une lecture toujours aussi rafraîchissante grâce à ses personnages forts, son équilibre entre la comédie et le drame, et grâce à la patte colorisée toujours aussi ravissante de Kim Young-mi. Il reste encore 4 volumes avant le fin mot de l'histoire, une durée qui semble adaptée pour une telle histoire dans ses ambitions actuelles. Voilà, donc je rappelle que Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim est à retrouver aux éditions Veritoon avec pour le moment 4 tomes. On va pouvoir s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Summer Nude 13 de Tomohisa Yamashita, et on reviendra juste après pour les sorties manga de la semaine.
Shirts, yo. au collège行け神様さ油断する宇宙の入り口で目を伏せてその髪の毛でその唇でいつかの誰かの感触を君は思い出してる僕はただ君と二人で通り過ぎるその全てを見届けようこの目のフィルムに焼こう
Donc c'était Tomohisa Yamashita avec la chanson Summer New de 13. On passe maintenant aux sorties manga de la semaine. Donc on aura des sorties pour mercredi 4 mai avec aux éditions Mangetsu le volume 9 de Ao Ashi, le volume 3 de Butterfly Beast 2, le volume 1 de Coq de Baston et le volume 6 de Keiji, la réédition 2021. Aux éditions Doki Doki, on aura la sortie du volume 2 de Appare Ranman, le volume 1 de Chat de Yakuza, le coffret intégral de Cube Arts, le volume 3 de In the Land of Liodol, le volume 13 de Sunken Rock, la réédition Deluxe, et le volume 4 de The Eminence in Shadow. Aux éditions Kaze, on aura la sortie du volume 31 de Black Clover et le volume 2 de Phantom Seer. Aux éditions Nobidobi, on aura la sortie du volume 2 de Blissful Land, le volume 1 de Star Wars Étoile Perdue et le volume 1 de Star Wars La Haute République, un équilibre fragile. Ensuite, pour les éditions Veritoon, on aura la sortie du volume 1 de Clean with Passion et le volume 6 de Solo Leveling. Aux éditions Delcourt Tonkam, on aura la sortie des volumes 6 et 7 de Die and Retry, le volume 1 de L'Extraordinaire Apothicaire, le volume 7 de L'Homme qui Toit Nobunaga, le volume 2 de Pilote Sacrifié et le volume 6 de World's End Harem Fantasy. Aux éditions Glénat, on aura la sortie du volume 1 de Full Night, le volume 2 de La Sorcière aux Champignons, le volume 20 des Gouttes de Deux Mariage, le volume 9 de Mao et le volume 101 de One Piece. Aux éditions Pika, on aura la sortie du volume 9 de Kaguya-sama Love is War, le volume 13 de Orient Samurai Quest, le volume 6 de The Witch and the Beast, le volume 7 de Toilet Bound Anako-kun et le volume 13 de To the Abandoned Sacred Beasts. On aura également aux éditions Panini la sortie du volume 8 de Koifuru Colorful et aux éditions Casterman la sortie du volume 1 du Roi Serre. Pour jeudi 5 mai ensuite, on aura aux éditions Mana Books la sortie du volume 7 de Angels of Death, le volume 8 de Persona 4 et le volume 6 de Siren Rebirth. Aux éditions Komiku, on aura la sortie du volume 15 de Arte et le volume 4 de Dahlia, artisane magicienne. Aux éditions Akata, on aura la sortie du volume 5 de A Sign of Affection. Aux éditions Kiun, on aura le volume 24 de Darwin's Game, le volume 3 de Free Eren, le volume 9 de Gigant, le volume 25 de Golden Kamui, le volume 2 de La Danse du Soleil et de la Lune, le volume 5 du Renard et du Petit Tanuki, le volume 3 de My Hero Academia Team Up Mission, le volume 1 de Sweet Home et le volume 8 de The Killer Inside. Aux éditions Hachette, on aura la sortie du volume 20 de Fairy Tail. Aux éditions Matin Calme, la sortie du volume 1 de L'Homme sans âge. Aux éditions Cornelius, on aura la sortie du volume 1 de Mauvaise fille, la réédition 2022. Et aux éditions Le Lézard Noir, on aura la sortie du volume 7 de Tokyo Taladeba Girls. Les dernières sorties de la semaine, ça sera pour vendredi 6 mai avec aux éditions Ankama le volume 12 de Dofus, donc l'édition double. Aux éditions Vega Dupuis, on aura la sortie du volume 2 de Genesis, le volume 3 de Manchuria Opium Squad et le volume 1 de Primal Gods in Ancient Times. Et enfin, aux éditions Kana, on aura les sorties des volumes 1 et 2 de Naruto, l'édition Hokage. Voilà, on va pouvoir s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Zuto de Tomomi Shibata en featuring avec Sphère, et on viendra juste après pour parler culture avec Les Secrets du Saké.
あの日のことを未でもずっと思い返してる。あなたといると素直でいられるからそう。 You always make me smile. 他の誰でもないあなたと巡り会えたのこの世界。
まるで晴れた空のよう土砂降りから守る傘のよう。Being with you always feel like the yo 君の笑顔が見れるように call Just like the first date 手を繋いで君と二人で歩いた浜辺 Watching the sunset 寄り添って Replays in my mind like a mixtape 忙しくて会えなくても遠くに仕事出かけていても Just remember I'm always there 心の中に I'm always here So 心配すんな I'll be home soon 君の元へ Always love you
だってあなたに出会えて見えるもの全て誓って yes. 見えてきたんだよ baby 愛してるなんて 言葉にできなくても変わらないよ I always feel
Donc c'était Tomomi Shibata avec la chanson Zuto en featuring avec Sphère. On passe maintenant à la partie culture, on va continuer à parler des secrets du saké avec le livre de Siméon Mollard qui est paru aux éditions Iseki Nicho. Donc on va parler de la sacarification. Donc pour faire de l'alcool, il faut du sucre fermentable, mais il n'y a pas de sucre fermentable dans le riz. Il y a de l'amidon. L'amidon est un glucide composé d'une chaîne de molécules, et en brisant cette chaîne, il pourra être transformé en sucre fermentable. Le briseur de la chaîne de molécules de l'amidon, c'est le kojikin. Le kojikin, c'est un champignon qui, en sécrétant des enzymes, va permettre cette transformation. Le brasseur va cuire son riz et le saupoudrer de kojikin dans une pièce spéciale, la kojimuro, qui est chaude et qui présente un taux de 30 à 50% d'humidité. Dans cet environnement, le kojikin va se développer et implantera ses enzymes, les glucoamylases, dans les grains de riz, ce qui va donc transformer l'amidon en sucre. Le riz sucré obtenu est donc appelé koji. C'est l'étape dite de la sacarification. Et donc, on va parler des fermentations multiples parallèles. Donc, on a la fermentation du koji, donc suite à l'opération du koji, l'amidon est transformé en sucre, ce qui constitue une première fermentation. Ensuite, on a les fermentations alcooliques. Donc, le sucre sera par la suite converti en alcool et en dioxyde de carbone par des levures indigènes ou ajoutées. C'est la seconde fermentation, d'où le terme fermentation multiple. On a ensuite les fermentations parallèles, donc suite aux étapes préliminaires dites du koji et du shubo. Ces deux fermentations ont lieu dans la même cuve en même temps, elles sont donc en parallèle. Le saké est la seule boisson fermentée au monde à utiliser ce procédé de fermentation multiple et parallèle. Les levures utilisées pour le saké sont plus résistantes que celles utilisées pour le vin, en contrôlant les températures et en maintenant un niveau de sucre peu élevé, car immédiatement converti en alcool, ce procédé permet de dépasser les 20 degrés d'alcool à la fin des fermentations, ce qui est un record que notre vigneron favori aura bien du mal à admettre. Voilà, donc on continuera à parler des secrets du saké la semaine prochaine. En attendant, on va pouvoir s'écouter tout de suite une autre chanson. C'est Tomeina Mizumi de Toyama Nao. Et on reviendra juste après pour la chronique du volume 2 de Hellbound, l'Enfer. Donc c'était Toyama Nao avec la chanson Tomaina Mizumi. On passe maintenant à la chronique du volume 2 de Hellbound, l'Enfer. Je rappelle que c'est un manhwa de genre drame, fantastique, horreur, surnaturel, qui a été écrit par Yong Sang-ho, dessiné par Choi Gyu-sok, et prépublié dans le Naver Series. La version française est parue aux éditions Veritoon dans leur collection K-Books, avec deux tomes qui terminent la série. Ce volume 2 est sorti le 26 janvier 2022, au prix de 14,95€, et je rappelle que la série est pour public averti à cause de la violence modérée. Donc le résumé de ce tome, des hommes et des femmes supposés être honnêtes reçoivent la visite d'un être mystérieux leur annonçant qu'il leur reste 5 jours à vivre avant d'être conduits en enfer. Ils tentent de fuir mais, à leur dite, ils sont emmenés, ne laissant que des corps calcinés derrière eux. Les sentences frappent en tout lieu, laissant les témoins médusés et la police démunis. Certains y voient la volonté de Dieu de montrer les supplices qui les attendent, d'autres souhaitent découvrir qui tire les ficelles. Face à l'emballement médiatique et à l'hystérie collective, un policier et une avocate tentent de lever le voile sur cette affaire, dont s'est désormais emparée la secte religieuse Neo Veritas. Donc 4 années se sont écoulées depuis que l'avocate Min Ye-jin a été laissée pour morte sous les coups des pointes de flèche et que l'ancien leader de la secte Neo Veritas, Jung Jin-soo, est mort suite à sa damnation en laissant son héritage à Kim Jong-shil. Depuis, ce dernier, en tant que deuxième maître de Neo Veritas, a pris soin non seulement de cacher la vérité sur la mort de Jung Jin-soo, mais aussi de faire toujours plus prospérer l'organisation religieuse. À tel point que celle-ci, à force d'instrumentaliser la peur et la soi-disant teneur divine des damnations, fait désormais figure d'autorité dans tout le Japon, voire plus encore. Pour la deuxième moitié de son histoire, brillamment servie jusqu'au bout par les visuels réalistes et abrupts de Choi Kyuk-sok, l'auteur Yong Song-ho trouve le moyen d'aller encore plus loin dans son sujet en faisant de Neo Veritas un outil de pouvoir omniprésent et peut-être plus important qu'aucun autre puisque le gouvernement semble bien muet face aux agissements de la secte, que les forces de l'ordre paraissent totalement à sa botte et que les médias sont contrôlés, le tout nous offrant une réalité alternative dystopique en permanence inquiétante et étouffante, nous prenant aux tripes jusqu'à l'angoisse. Comment l'organisation religieuse a-t-elle pu prendre tant d'importance? Eh bien par des procédés qui ne sont pas nouveaux, exploitation de la peur collective face aux damnations pouvant s'abattre à tout moment, division de la population pour opposer les vertueux aux pécheurs damnés, le tout en prétextant la volonté divine. Pour la secte, les damnés sont forcément tous des pécheurs, ayant commis quelque chose d'intolérable selon Dieu, et ils doivent se laver de leurs péchés en s'expiant auprès de Neo Veritas et en subissant leur damnation sous leurs yeux. Donc par rapport au premier volume, Neo Veritas a connu une radicalisation toujours plus forte, à tel point qu'elle n'a peut-être plus rien à envier aux extrémistes pointe de flèche sur ce point, et qu'il n'est plus rare que les deux groupuscules collaborent de temps à autre. Le scénariste nous offre ainsi une critique particulièrement intense et acide de ces formes de sectarisme qui, sur des fondements détournant la religion, entretiennent la peur et la division pour mieux régner. Mais dans cet effrayant présent alternatif où les damnés sont soi-disant tous des pécheurs, que se passerait-il si précisément une personne damnée ne pouvait avoir mathématiquement absolument rien à se reprocher ? Bam Bam, un nouveau-né, se retrouve ainsi damné juste après être venu au monde, sans avoir eu le temps de faire quoi que ce soit, sa mort étant prévue seulement 3 jours plus tard, laissant donc ses parents désemparés. Des parents qui, alors, feront tout pour essayer de comprendre comment une damnation aussi injuste peut exister, pour empêcher la mort de leur enfant, voire pour lever la vérité sur les exactions de Neo Veritas, avec l'aide d'une certaine avocate qui, en 4 années, a fait bien du chemin de son côté. Le parcours désespéré de ses parents face à la damnation de leur bébé est l'enjeu qui va guider l'entièreté du déroulement de ce deuxième et dernier volume, avec un flot incessant de moments forts, nous faisant aller des éléments de forte critique sociale à des interrogations poussées. Le divin existe-t-il vraiment pour oser conduire de telles aberrations ? En passant par des moments d'un cynisme sans commune mesure. Le cas de Lee Dong-wook en est le meilleur exemple. Le tout dans une tension constante, en forme de course contre la montre et de course-poursuite, puisque bien entendu, les extrémistes religieux se montreront prêts à tout pour attraper les parents de Bam Bam et les empêcher de révéler la damnation injuste de leur bébé. Les auteurs ne nous lâchent donc à aucun moment dans ce climat extrêmement éprouvant, jusqu'à une fin particulièrement maligne, car derrière son côté volontairement abrupt, histoire de marquer encore plus les esprits, elle cristallise bien les idées de son scénariste. Dans un monde humain, seuls les humains doivent diriger les humains et non pas une possible divinité. Et plus que le sectarisme religieux, la division et la peur, c'est l'amour, celui d'une mère pour son bébé par exemple, et la faculté humaine à protéger son prochain, qui peut changer les choses. Récit mené tambour battant dans une tension permanente, Hellbound s'achève de merveilleuse manière, les auteurs allant au bout de leurs idées et croquant une virulente critique sociale, qui derrière son côté dystopique semble pourtant on ne peut plus actuel. Un thriller intelligent qui nous remue en profondeur au risque de laisser des traces. Voilà, donc je rappelle que Hellbound, l'enfer est à retrouver aux éditions Veritoon dans leur collection K-Books avec deux tomes qui terminent la série. On va pouvoir s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Eien de Toyoguchi Megumi, la doubleuse du personnage de Sophia dans l'anime Claymore, et on reviendra juste après pour une actualité au Japon. Donc c'était Toyoguchi Megumi avec la chanson Eien, donc Toyoguchi Megumi qui est la doubleuse du personnage de Sophia dans l'anime Claymore. On passe maintenant à l'actualité au Japon. Donc l'inauguration du parc Ghibli se rapproche de plus en plus. Alors qu'il ouvrira ses portes, je vous le rappelle, le 1er novembre 2022, soit dans une poignée de mois maintenant, le site officiel du projet a été mis à jour, dévoilant notamment les prix des billets d'entrée. Le parc sera composé de plusieurs zones d'attractions, toutes dédiées à l'univers d'un ou plusieurs films du studio Ghibli. Ainsi, les visiteurs devront acheter séparément un billet pour chaque zone qu'ils souhaitent visiter. Un peu comme Disney avec le studio et le parc normal. Voici donc, sans plus attendre, les prix qui ont été annoncés selon les espaces. Donc le grand entrepôt Ghibli en semaine sera à 2000 yens pour les adultes et à 1000 yens pour les enfants, soit de 7,30 euros à 14,50 euros environ. Le même parc, donc le grand entrepôt Ghibli pour les week-ends et les jours fériés, ça sera 2500 yens par adulte et 1200 yens pour les enfants, soit de 9 euros à 18,30 euros environ. On aura ensuite la forêt d'Ondoko qui sera donc à 1000 yens pour les adultes et 500 yens pour les enfants, soit de 3,50 euros à 7,30 euros environ. Et on aura également la colline de la jeunesse qui sera donc au même prix, 1000 yens par adulte et 500 yens par enfant, soit de 3,50 euros à 7,30 euros environ. Donc aucun billet avec formule combo ou tarif réduit n'a été annoncé sur le site officiel du parc. Si vous souhaitez visiter donc l'intégralité du parc, ou en tout cas les trois zones qui seront disponibles dès l'ouverture, il faudra donc compter 4000 à 4500 yens pour un adulte, environ 30 euros, et 2000 à 2250 yens pour un enfant, soit environ 15 euros. A noter que l'entrée sera gratuite pour les enfants de moins de 3 ans. Et comme c'est déjà le cas pour le musée Ghibli, l'entrée au parc Ghibli nécessitera une réservation à l'avance sur le site officiel. Voilà, on va pouvoir s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Nomotsu Shuan de Trantaiwa, et on reviendra juste après pour finir l'émission avec une news musicale.
Chiều nay thấy hoa cười, chợt nhớ một người. Chạnh lòng tôi khơi bao niềm nhớ. Người nơi xa xăm phương trời ấy, người còn buồn, còn thương, còn nhớ. Nắng phai rồi em ơi. Chiều xuân có một người ngơ ngác đi tìm một tình thương nơi phương trời cũ. Chiều nay hoa xuân bay nhiều quá, chiều tàn dần phai trên ngàn lá, tìm đâu bóng hình ai. Người về còn nhớ khúc hát, người yêu dấu bên bờ thành viên. Lòng này còn quyến mãi. Đêm xuân dài mà đâu có hay. Chiều nay có một loài hoa vỡ bên trời, đợi mùa xuân sang tô màu nhớ. Dừng chân trong hoa xuân hồng thắm, buồn tìm về tình ái đắm thắm, giờ vun vút trời mây. Chiều nay có một loài hoa vỡ bên trời. Đợi mùa xuân sang tô màu nhớ. Dừng chân trong hoa xuân hồng thắm, buồn tìm về tình ai đắm thắm. Giờ vun vú trời mây. Dừng chân trong hoa xuân hồng thắm, buồn tìm về tình ai đắm thắm. Giờ vun vú.
Donc c'était Tran Taiwa avec la chanson No Mo Che Xuan. On passe maintenant à la news musicale pour finir cette émission. Donc après le succès de Nemo Amo Rumor, marquant le départ d'une nouvelle ère, AKB48 revient cette fois-ci avec son 59e single, Motokare Des, décliné en 9 éditions donc, et qui sortira le 18 mai prochain. Honda Itomi, ex-membre des IZONE, prend le relais en tant que center pour la chanson-titre du single. À l'occasion de cette nouvelle chanson, le groupe collabore avec le groupe de danse Ganmi. Donc Kawashima Sota, chorégraphe ayant participé à la création de la Ganmi Dance, révèle que cette chorégraphie a été créée pour les membres composant l'AKB48 actuel. Donc si ça vous intéresse, le clip Motokare Des est déjà disponible sur la chaîne YouTube officielle du groupe. Et du coup, là vous n'aurez pas le clip parce que vous avez que le son. Donc on va pouvoir s'écouter Motokare Des de AKB48 pour finir cette émission. Je rappelle que vous pourrez me retrouver vendredi prochain de 18h30 à 19h pour l'émission Cordialement Geek. Sinon, ça sera comme d'habitude, lundi prochain de 21h à 22h pour une nouvelle émission Asian Bubble. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine et à bientôt!
恋の着地点。